Merci Amaury et bon week-end. Deux invités des métamorphoses, Marie Cosnet et Pierre Judet de la Combe, une latiniste et un helléniste. L'une vient de traduire le poème Monde d'Ovide, l'autre lui offre une préface. Tous deux s'assurent, quoi qu'il en soit, de l'avenir des anciens.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Marie Cosnet, Pierre Judet de la Combe, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Une écrivaine latiniste et un helléniste pour une émission tout en métamorphose, puisque donc tout change, sauf le langage, sauf le poème. C'est l'une des leçons des métamorphoses d'Ovide, celle que vous venez de traduire, Marie Cosnet, aux éditions de L'Ogre. Jupiter, Écho, Narcisse, Daphné, Europe, Io, Médée, Orphée, des dieux, des hommes, des bêtes, des roches et des plantes, des répertoires d'images, une langue qui court de récit en récit, de corps en corps, de transformation en réincarnation, dans un poème sans fin, écrit il y a 2000 ans maintenant, 12 000 vers à peu près, 15 livres, plus de 200 fables transformistes, du début du monde jusqu'au temps d'Ovide, sous le règne d'Auguste et en creux, sans doute la plus belle des définitions du poème. Il vous aura fallu 10 ans, Marie Cosnet, passer dans la langue d'Ovide et dans son poème, 10 ans donc à traduire et à poursuivre dans le même temps votre propre œuvre, largement irriguée par Ovide et par son refus de la fixation des choses, bien qu'il est probable qu'on revienne sur cette question de la fixation, qui n'est pas si simple. À chacun ses amarres, Pierre Judet de la Combe, directeur d'études à l'UHESS. Vous, c'est plutôt du côté de la poésie grecque que vous creusez. Du côté d'Homère, par exemple, dont vous venez de signer une peut-être biographie aux éditions Gallimard. Et je crois qu'il y a une traduction, Monstre, en préparation, elle aussi. Mais comme vous l'aviez affirmé dans un essai paru l'an passé, il y a de l'avenir chez les anciens. Il faut oser relire les Grecs et les Latins. Vous signez à ce titre, comme ça tombe bien, une longue et lumineuse préface à la traduction de Marie Cosnet.
Je t'enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant.
Europe ! Europe !
Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Io, transformé en génisse par Jupiter ?
Jupiter ! Jupiter ! Et toi, t'es qui ?
Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux.
Pour la jeunesse !
Je suis Bacchus. Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les Bacchantes.
C'est ça, être un dieu ?
Du désir, de la violence et beaucoup de sons. Bacchus, Europe, Jupiter, Io et les autres. La bande-annonce des Métamorphoses de Christophe Honoré, remontée par Thomas Beau. C'était en 2014, une libre adaptation d'Ovide qui jetait les passions des dieux dans l'époque contemporaine et avec elle, corps jeune et langue d'aujourd'hui. Alors, Marie Cosnet, il n'est pas évidemment pas question de vous faire commenter le film, je ne sais même pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais on pourrait dire d'une certaine façon que vous opérez un mouvement presque semblable en retraduisant aujourd'hui la métamorphose d'Ovide. Autrement dit, ce qu'il fallait, c'était non pas traduire des histoires, mais traduire une langue et donc redonner à cette langue d'Ovide le caractère neuf qui était le sien à l'époque. Hein, c'était ça, oui. L'enjeu de la traduction.
Oui, plus que de traduire une langue, traduire les phrases du début à la fin, j'ai pas vraiment commencé au début, mais j'ai fini à la fin. Traduire, prendre la phrase dans sa construction et la déconstruire au maximum pour la reconstruire dans un français qui respecterait peut-être ses torsions autant qu'il le peut, et puis ses figures. Les choix des mots, par exemple le mot « imago » qui revient tout le temps dans le texte d'Ovide, j'essaie en tout cas de le traduire toujours par le mot « image » en français. Le mot « Carmen », c'est toujours le poème et pas le chant ou l'incantation, etc. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'exception à ça, à ces deux mots-là, Imago et Carmen. C'est pas pour rien que je les ai en mémoire, parce qu'ils reviennent très souvent. Voilà, quelques jalons comme ça. Et puis après, oui, tenter de faire en sorte de traduire le vers, l'hexamètre, non pas dans un rythme que je ne saurais pas transférer du latin au français, mais davantage en conservant son unité syntaxique au maximum, quand c'est possible.
C'est-à-dire écrire comme on écrit d'habitude dans sa langue, c'est ce que dit Pierre Judet de Lacombe dans sa préface.
Oui, c'est-à-dire que, parce que c'est vraiment du français, c'est pas comme si le français, dans cette traduction, avait été latinisé.
C'est pourquoi. Pas une version, c'est une traduction.
C'est pas une version, c'est pas non plus l'idée qu'il faut faire un choc à la langue, c'est l'idée qu'en français déjà, si on a une certaine souplesse, il y a la possibilité de rendre quelque chose comme la musique, le rythme et ce dynamisme incroyable du vers et de la phrase d'Ovide. Et donc, effectivement, c'est... Le choix n'a pas été, par exemple, de trouver des mots rares.
Au contraire.
Bon, il peut y avoir des mots très simples qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les traductions, ni dans les versions, ni même parfois dans la poésie, parce que c'est comme ça chez Ovide, donc qui vise toujours à dire la chose la plus nettement possible. Et le français, là, dans sa tradition syntaxique, quand même sa grande force. On a peu de mots en français par rapport à l'italien ou à l'anglais, mais on a cette force de la syntaxe. Et donc, on sent que chaque vers est lancé, c'est comme un jet, ou comme une pierre qui part, donc il faut qu'on ne sait pas bien où ça va arriver, ça, c'est parce que tout change dans ce monde-là. Mais c'est une option sur le français, donc... Et je trouve que, pour moi, c'est l'option juste. On peut traduire en rythme, etc., mais... Le problème, c'est que les rythmes, ça finit par ronronner, alors que Ovid ne ronronne jamais.
Surtout le rythme qui pourrait nous arriver comme ça, la première idée qu'on pourrait avoir en voyant l'hexamètre dactylique qui est le grand vers de l'épopée, ça serait de penser à l'alexandrin, mais en réalité, d'une part, c'est pas du tout naturel pour moi d'écrire un alexandrin, enfin, ça serait complètement même incroyable que je me mette à écrire un alexandrin, et d'autre part, c'est un vers, l'alexandrin régulier, classique, qui ronronne, comme tu dis, et l'hexamètre, c'est exactement le contraire. En plus, l'hexamètre qui lui-même est un peu déséquilibré, impair, Ovide, lui, s'amuse à le rendre encore plus déséquilibré, puisque je pense qu'il n'y a pas un exemple sans rejet contre rejet. Voilà, donc ça aurait été très bizarre de mettre du carcan là. Le seul carcan, voilà, c'était celui de la syntaxe le plus possible.
Alors, c'est ça que je voulais vous demander justement, Marie Cosnet, de quoi était fait ce latin-là, en tout cas cette langue-là, celle d'Ovide, qui est une langue qui pratique, alors peut-être un peu de contexte, hein, alors qu'il vit dans une région où il a été relégué par Auguste à ce moment-là, qui est une région aux confins de l'Empire, où il est justement privé d'une certaine manière, il n'est pas privé de sa langue, mais en tout cas son entourage ne partage pas sa langue. Dit plus simplement, comment est-ce que vous décririez ce latin, qui est un latin de ce que dit Pierre Judet de Lacombe, un latin qui serait coincé, un peu coincé, entre deux langues, au fond, entre le grec et le latin. Alors, coincé ou jubilant entre deux langues, je ne sais pas.
Alors, s'il y a du grec dans ce latin, c'est surtout pour les noms, ouais. Les reprises de noms, qu'ils latinisent d'ailleurs souvent. Hein. Phoebos, ça devient Phoebus, etc. Mais quelquefois, non, c'est aléatoire, quand ça l'arrange, en fait, je pense. Et après, c'est pas un latin qui est très difficile. Donc déjà, le vocabulaire est pas très difficile. C'est un latin qui joue beaucoup des successions. J'ai pris un exemple d'une phrase, parce que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est celui que j'ai sous les yeux. C'est « ante mare, et terras, et quod tegit ». Et, trois fois dans le vers, donc la succession de la coordination. Et ça, c'est quelque chose qui fait très souvent et que souvent les traductions ont eu tendance à gommer parce que ça faisait des répétitions, etc. Après, il y a autre chose, ce sont justement ces décrochages. Le vers, syntaxiquement, ne s'arrête pas à la fin du vers, mais un mot est en rejet ou deux mots. Donc ça aussi, c'est très fréquent. Et autre chose qui est très fréquent, c'est la grande distorsion entre l'adjectif et le nom, qui évidemment est possible en latin. latin, même en latin en prose, mais à ce point quand même. Parfois, c'est chez Ovid, il joue vraiment là-dessus, avec quelquefois des ambiguïtés même que ça peut offrir du point de vue de la syntaxe. On peut se dire, tiens, c'est Europe qui a été trompée. Ah, mais non, trompée, ça va avec le nom qui est quatre vers plus loin, etc. Donc ça, c'est une des particularités de ce qu'il fait. Et je pense une autre encore, c'est de reprendre un mot, un signifiant important pour le contexte, pour la métamorphose, et de la tisser, de la faire faire revenir ce mot au fur et à mesure dans le, alors vraiment comme une sorte de toile là qui serait en train de se confectionner.
Alors on va revenir justement au projet, hein, au texte, au poème, à ce projet d'épopée et à son tout. Début, puisque au tout début, c'est-à-dire au début du monde, hein, quand le monde était chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte des semences amoncelées, sans lien discordante. Donc c'est par là que commence le livre 1 des Métamorphoses, mais ce livre 1 commence surtout par ces vers fameux « Je veux dire les formes changées en nouveau corps. Dieu, vous qui faites les changements, inspirez mon projet et du début du monde jusqu'à mon temps, faites courir un poème sans fin. » Qu'est-ce que ce premier vers, alors je m'adresse à tous les deux, sans doute, ce premier vers nous dit déjà, ce premier vers qui parle au jeu et un jeu qui veut.
Alors sur le jeu.
Sur le jeu ou sur le vœu.
Sur le jeu, oui.
C'est, Pierre Judet de la Combe.
Non, mais la soirée, c'était peut-être un des vers les plus difficiles.
C'est le vers le plus difficile à traduire.
Parce qu'effectivement, en latin, il y a animus. Mais animus, c'est pas anima. Que c'est un mouvement. Et donc, il y a une volonté. Et alors, il y a un jeu avec les corps. Et là, bon, ce que aussi Marie disait, les nouveaux corps. Le nouveau, c'est le début du premier vers. Et corps, c'est le début du second vers. Donc là, c'est totalement distendu. Et il y a un jeu extraordinaire sur le fait qu'il veut un chant perpétuel, carmen perpetuum, donc qui est très long et qui va être aussi long que enfin, tout le temps qu'imaginable de la nature. Et en même temps, c'est dit à mon époque, donc à mon temps.
Il bon. Y a déjà le paradoxe là. Il veut un carmen perpetuum, un poème infini, perpétuel, mais qui commence à l'origine et qui va jusqu'à son temps.
Mais qui est amené à
se vivre,
on le sait à la fin,
on le sait après.
Oui. Et donc là, c'est vrai. Alors par rapport à ce que fait l'épopée d'habitude, c'est vraiment pas comme ça. Alors si Virgile s'amuse à dire je chante l'homme et les armes, etc. Donc là, on a tout de suite le contenu qui est mis sur le devant. Donc c'est les grandes épopées à la Homère et précisément Ovid ne fait pas ça parce que ce qu'il veut chanter, c'est les choses nouvelles. Donc c'est pas le passé, même si c'est toujours le passé, plus ou moins, mais ce sont des choses qui sont des surprises. Et donc on n'est pas dans le récit continu donc d'aînés ou bien le récit de la nature dans la philosophie, dans le poème philosophique de Lucrèce ou bien même dans chez Homère, avec il s'agit de prendre un épisode loin dans le passé. Là, puisque le deuxième mot innova, donc comment les choses deviennent des corps nouveaux, on est dans la rupture. Et ça, c'est un paradoxe, je le trouve magnifique. Qu'on a la langue épique, le maître épique, qui normalement déroule des longs récits, pour dire au contraire des saccades, des choses qui sont totalement imprévues. Et comment Ovid arrive à tenir les deux, ben c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est son esprit, son animus. Enfin, c'est lui, donc c'est je, c'est moi, comme dit-il, qui veut ça. Donc, il se pose comme étant capable, lui, petit individu, donc lié à Auguste, enfin avec tous les problèmes qu'il va avoir ensuite, etc. Donc, lui peut décider de la nouveauté. C'est quand même une chose extraordinaire pour faire un chant qui... Alors, perpetuum, ça veut dire à la fois très long, qui va se perpétuer. Donc, c'est un acte poétique d'une force extraordinaire, de dire « je fais de la rupture ». Donc, c'est corps nouveau, quelque chose qui est la matière d'un très long poème, dans le maître qui dit au contraire la forme, qui dit au contraire le continu. Donc, on est devant un paradoxe gigantesque dès le début.
C'est ça,
et ce paradoxe qu'on va retrouver en fait du long. Enfin, il y en a. C'est pas le seul, mais en tout cas même sur la question de la métamorphose justement, précisément, on est à la fois dans la métamorphose, c'est-à-dire dans ce qui change et qui en même temps n'est pas tout à fait ce qu'on croit qui est en train d'advenir et en même temps reste ou redevient ce qu'il était ou se trouve dans un entre-deux. qui est ce fil qui l'a attiré.
C'est la grande question. Je pense que c'est vraiment le... Il commence par Innoa, en effet. En quoi il va dire les formes changées en nouveau corps. Et il commence, lui, le poème, ce qui n'est pas le cas dans le français, mais par Innoa. Donc, on commence par de la nouveauté, par de la rupture, comme tu disais. Et je voulais revenir sur je, parce que je, dans le premier vers de d'Ovide, il n'y est pas. C'est animus fert, qui est une drôle de forme qui, mot à mot, dirait le souffle, la volonté, l'esprit, je ne sais pas, porte. Donc, mon souffle me porte à dire les formes changées en nouveau corps, quelque chose comme ça. Et après, dans les deux vers suivants, on a deux fois l'adjectif possessif mea, meis, qui évidemment installe la première personne dans le texte. Et on a aussi la rupture avec les dieux. Vous, dieux, qui faites inspirez-moi. Hein, vous, dieux, il parle aux dieux, il leur demande de l'inspirer. Et donc, ce animus, il est vraiment de l'ordre de la volonté, du désir, du projet. Et c'était très, très difficile de ne pas le sous-traduire en traduisant mon idée est de dire les formes, mon intention est de dire ma volonté, quelque chose comme ça. Donc, le je veux, il est un tout petit peu surtraduit.
Mais il dit bien la rupture.
Traduit à côté, mais il dit bien, il me semblait qu'il disait bien la rupture équivalente au innoa du texte latin.
Alors, un je qui veut, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, Marie Cosnay, parce que vous l'avez tout juste évoqué tout à l'heure, vous avez commencé, non pas par le début, hein, mais par les livres 10, 11 et 12, hein, c'était aux éditions Nous, c'était en 2011, avant d'entreprendre, de traduire la totalité du poème aux éditions de l'Ogre. Qu'est-ce qui vous a finalement jeté totalement dans ce que vos éditeurs appellent une folie, et vous, une fête, hein, Marie Cosnay?
Alors c'était, c'est l'école, hein, c'est le collège, hein. C'est le collège, c'est traduire avec les enfants, faire traduire les enfants, les faire traduire vraiment en regardant chaque mot, chaque phrase, chaque proposition, en décomposant grammaticalement, en étudiant les déclinaisons, enfin vraiment en faisant le travail un petit peu laborieux et difficile. Et après, en repossédant le texte de la manière qui convenait à chacun et qui faisait plaisir à chacun et qui était une fête pour chacun. Et ça marchait très très bien. Et je crois qu'on avait tous, les élèves et puis moi, beaucoup beaucoup de plaisir. Et puis est arrivé donc il y a 10 ans. On sait que c'est il y a 10 ans parce qu'en 2007, après vérification, les programmes en terminale littéraire étaient, pour ceux qui continuent le français en terminale, il y avait les livres 10, 11, 12 des Métamorphoses d'Ovide. Et il n'y avait pas de traduction. Il n'y avait pas de traduction proposée. Il y avait des versions. Il y avait des versions, celles de, je ne sais pas, de Folio, peut-être, Nérodo, quelque chose comme ça, ou La Faille, mais un peu rapidement éditées pour les scolaires. Et donc, j'avais commencé à traduire pour les élèves que je connaissais, qui étaient en terminale, et on a mis ça sur un site qui était Musagora, un site en accès libre, en fait. C'était avec Pascal Charvet, qui m'avait conseillé de faire ça. Et puis le plaisir. Alors là, j'avais attrapé le plaisir de le faire toute seule, sans les élèves. Et j'ai continué, mais on dit 10 ans, mais j'ai pris le temps. Hein. J'ai pris le temps.
Alors, vous dites 10 ans dans la postface, hein, que vous signez, oui. Après la traduction. C'est curieux parce que vous évitez presque le terme de traduction. Et à plusieurs reprises, vous utilisez justement le terme de 10 ans de traduction, comme si vous parliez davantage, au fond, d'un temps que d'un objet. Et je me demandais si, en fait, c'était ça, pour vous, la traduction d'Ovide, c'est d'abord un temps.
Oui, c'est cette régularité, c'est ce temps, cet accompagnement quasi quotidien, et avec une matière, un texte qui préexiste, qui est là et qui ne va pas me faire défaut. Là, on est sûr que celui-là, il est là, quoi. Après, il suffit de s'y mettre et c'est juste une question d'animus.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Le hautbois de Roy Carter, interprétant Narcisse, hein, extrait des Six Métamorphoses de Benjamin Britten, composé en 51 et édité ici par EMI Classique. C'est votre choix, à vous, Marie Cosnet. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre, et ceci avant qu'on vous entende faire lecture de Narcisse et Écho?
Peut-être dans ce qu'on vient d'entendre, quelque chose qui ramène au vide à sa matière tragique, en fait. Parce que souvent, il y a beaucoup d'humour dans Ovid. Il y a une distance, il y a de l'humour, bien sûr, il y a de la rapidité. Mais il y a aussi une force tragique incroyable que je trouve que le hautbois du morceau de Britten rend bien. Je trouve très beau.
Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture ? Et peut-être nous dire à peu près où nous sommes. Hein, parce que
Alors, on est au livre 3. Et Écho, qui est amputé d'une partie de sa voix, court après Narcisse. Donc, Narcisse erre par les campagnes isolées. Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche. Comme quand le bout de la torche, enduit de soufre vivace, attire les flammes qu'on y porte. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres et lui faire de douces prières. Sa nature refuse, elle ne peut pas commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête. Guetter les sons, renvoyer les mots. L'enfant, loin de la fidèle troupe de compagnons, dit « Qui est là ?»« Là !» répond Écho. Stupéfié, il regarde dans tous les coins, il appelle « Viens !» Un appel répond à l'appel. Il se retourne, personne ne vient. Pourquoi, dit-il, me fuis-tu ? Ces mots qu'il dit, il les reçoit. Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit : Ici réunissons-nous, et à rien, jamais, avec plus de plaisir, Écho qui répète n'a répondu : Unissons-nous. Elle est bien d'accord. Elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré. Il fuit et fuyant, sors tes mains de là, je mourrai, dit-il, avant d'être à toi. Elle ne répète plus rien, sauf être à toi. Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. Son amour est bien accroché, il grandit de la douleur du refus. Les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps, la maigreur fripe la peau et dans les airs le suc du corps va tout entier. Juste une voix, juste restent les os, la voix demeure, les os, dit-on, prennent figure de roche. Depuis, elle se cache dans les forêts, on ne la voit plus sur la montagne, tout le monde l'entend, elle est le son, il vit en elle. Comme avec elle, Narcisse s'était amusé avec d'autres nymphes, nés des eaux ou des montagnes, et avec des jeunes hommes. Un de ceux qui l'a méprisé lève les mains vers le ciel, qu'il soit amoureux lui aussi sans posséder l'aimé. La déesse de Ramnonte acquiesce à cette prière juste. Il y avait une source limpide d'argent aux eaux brillantes, que ni les bergers, ni les chèvres qui paissent en montagne, ni aucun troupeau n'avait fréquenté, qu'aucun oiseau, ni bête sauvage n'avait troublé, ni aucune branche tombée d'un arbre. Il y avait du gazon autour, que l'eau tout près nourrissait, et une forêt, qui ne laissait entrer aucun soleil. Ici, l'enfant, fatigué de la chasse et de la chaleur, s'allonge, conduit par la beauté du lieu et par la source. Il veut apaiser sa soif, une autre soif grandit. Il boit et, saisi par l'image de la beauté vue, aime un espoir sans corps. Il croit que c'est un corps, c'est de l'eau. Il est stupéfié, immobile, à son visage il s'accroche comme une statue en marbre de Paros. Il regarde, allongé au sol, l'étoile jumelle, ses yeux, et digne de Bacchus, et digne d'Apollon, ses cheveux, et ses joues sans poils, et son cou d'ivoire, et la forme de sa bouche, et la rougeur mêlée à la blancheur de neige. Il admire tout ce qui le rend admirable. Il se désire le fou. Celui qui aime est aimé. Il désire, et il est désiré, et il allume, et il brûle à la fois.
Merci. Qu'est-ce que c'est, Marie Cosnet, que ce « moi » chez Ovide, hein, qui peut se métamorphoser ou se dédoubler, comme Narcisse.
Et comme Narcisse, ou comme Actéon, ou comme tout un tas d'autres personnages, le sujet n'est jamais très sûr qu'il n'est pas l'objet aussi en même temps. Celui qui aime est aimé, Celui qui voit est vu, celui qui chasse est chassé, pour Actéon. Là, c'est vraiment cette idée du double.
Chez vous, ce mythe-là, Marie Cosnet, c'est affaire de corps, d'abord. Et c'est cette question-là qui vous taraude et que vous partagez avec Ovid. Qu'est-ce qu'un corps? Qu'est-ce qu'un poème? Qui sont des questions qui reviennent et qui creusent votre postface. Qu'est-ce que peuvent un corps et un poème? Vous y voyez même de l'angoisse, de l'inquiétude, en tout cas, chez vous et sans doute chez Ovid. Ces questions, ce sont les miennes, dites-vous. Et à force de ne pas y répondre, vous finissez quand même par quelques pistes. Vous repoussez le moment où vous finirez par y répondre. Mais au fond, en quoi est-ce que les métamorphoses d'Ovid nous diraient mieux que tout autre ce qu'est un poème?
Alors, au bout du compte, on l'a entendu dans, la petite histoire d'écho, ce qui reste, c'est la voix. Quand le suc du corps s'en va...
Peut-être rappeler ce qui est arrivé à Écho, enfin ce qui...
Oui, alors c'est en deux étapes ce qui lui est arrivé. La première chose, c'est très très récurrent chez Ovid, c'est-à-dire que la première métamorphose, elle a déjà eu lieu. Il y a toujours une métamorphose qui précède celle qui va nous être racontée. Et donc la première métamorphose, si c'est une métamorphose, en tout cas c'est une amputation, c'est Junon qui lui a retiré le pouvoir de parler la première. Elle ne peut que répéter les sons... après quelqu'un, puisqu'elle avait profité de son don de la parole pour couvrir les infidélités de Jupiter, du coup, voilà. La deuxième métamorphose d'Écho, c'est la douleur amoureuse, en fait, et le désespoir, qui fait qu'elle va tout perdre du corps pour n'être plus qu'une voix qui répète. Elle n'a plus que cette voix. Et donc, Le poème, c'est ce qui reste. Ça serait ce qui reste, au bout du compte, quand le suc du corps n'est plus. Et le suc du corps, ça, c'est très complexe, parce que qu'est-ce que c'est que le corps? Eh bien, ça, c'est justement ce qui ne cesse de devenir de nouveau corps à chaque fois, avec toutes les paradoxes qu'on a évoqués tout à l'heure sur est-ce que vraiment ça se déplace ou est-ce qu'au contraire, c'est atrocement et de manière très angoissée, figé et, irrémédiablement figé.
Les deux. Sans doute. Vous le citez, vous également, ce mythe de Écho et Narcisse, Pierre Judet de Lacon, pour d'autres raisons, peut-être davantage pour des raisons de langage, justement, par rapport à ce que disait Marie Cosnet à l'instant. Qu'est-ce que ce mythe-là dirait de ce qu'accomplit Ovid, au fond?
Oui, justement, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi du poème et c'est ça tout le paradoxe, c'est-à-dire que Écho, qui a subi ces transformations, Écho devient un événement singulier, on peut dire individuel, quand elle n'est plus un individu. C'est ça quand elle perd, quand Écho, de nom propre, devient un nom commun, l'écho, ce qui se répète, le son qui se répète. Et on a ça dans presque toutes les métamorphoses, c'est-à-dire que quand les gens ont un corps et un nom propre... Bon, ils sont assez banals, et c'est leur transformation en chose, en laurier ou en pivert, tout ce que vous voulez, qui fait qu'il y a c'est cet événement-là de la dépersonnalisation, de cette manière, qui crée cette singularité, cette individualité poétique. Et ce qui est frappant, c'est que ça se fait par le langage avec des jeux infinis, tellement ça se renverse, enfin, c'est d'une virtuosité extraordinaire, parce que quand le corps d'Écho redevient pierre, c'est l'inverse de la genèse des hommes, puisque les êtres humains étaient des pierres qui sont ensuite devenus corps, donc elle peut faire l'inverse. Mais en faisant ça, elle devient son, c'est-à-dire elle permet au poème de dire tout, et surtout le langage, et là on sent les traces des analyses faites par les sophistes, enfin, etc., c'est que le langage est au-delà, comme son, comme matérialité, et au-delà de la simple structure logique, puisque ne pas être avec toi, ou ne plus, je ne veux pas être avec toi, si on enlève la négation, parce que c'est dans le son, devient être avec toi, c'est-à-dire exactement ce que Écho amoureuse voulait, c'est-à-dire que dans le langage, il y a quelque chose avec le son, c'est ce que devient Écho, qui est plus fort, premier, est plus important que, de certaine manière, que ce que la logique, avec la négation, veut construire. Et donc, la poésie joue sur cela. Alors après, on passe à l'image, Et ça, c'est extraordinaire. Donc, l'être aimé qui n'aimait pas s'aime lui-même dans un dédoublement. On n'est plus dans les pierres, mais on est dans l'eau, etc. Donc, et en fait, il y a une espèce aussi là de donc l'être aimé dans la présence à soi la plus grande possible, dans le dédoublement. Comme l'écho est un dédoublement sonore, on a un dédoublement visuel, produit le désastre. Et là, ce qui est fabuleux, je trouve, dans cette poésie, c'est qu'elle ne conclut pas. C'est pas un poème théorique, comme était le poème de Lucrèce, qui est vraiment de la philosophie. Tandis que là, non, c'est on joue avec une analyse du langage extrêmement libre, et on fait, et c'est pas l'ambiguïté non plus, parce que tout ça est très tenu. Il s'agit bien de dire des événements. C'est corps nouveau, c'est le nova, c'est le novum, c'est-à-dire c'est l'événement imprévu qui devient quelque chose de vraiment poésie, parce que la poésie, c'est en même temps analyser les moyens qu'elle a de le dire, de ne pas le dire, etc. C'est
ça et avec beaucoup d'humour, et beaucoup d'humour aussi, parce que si au bout du compte, le poème, c'est le son, le simple son que peut écho, c'est quand même un son qui ne fait que répéter. Et donc répéter, c'est déjà ce qui a eu lieu. Et en fait, il sait très bien qu'il répète pas, puisqu'il fait du non-voix. Et en réalité, il dit qu'il ne fait que répéter. Donc il fait exactement ce que fait écho quand elle entend et quand elle veut entendre être avec toi, alors qu'il lui a dit que je ne sois pas avec toi.
Comment est-ce que vous comprenez alors l'un et l'autre que... Alors, Ovid va varier un petit peu, enfin pas beaucoup, mais un petit peu quand même les narrateurs. De temps en temps, il va prêter la parole, prêter sa place, hein, de temps en temps, à moins que ce ne soit encore une métamorphose, sans doute, hein, c'est bien possible. Il finit par donner la parole à Pythagore, au philosophe, à la toute fin. Qu'est-ce que ça veut dire que de terminer ce poème « Monde » par un philosophe? Alors, on sait qu'à l'époque, Pythagore, évidemment, bien plus ancien, mais était très à la mode, hein, au temps d'Ovide. Mais au fond, quelle clé est-ce que Pythagore va donner? Est-ce que ce sont vraiment celles d'Ovide? Est-ce que ce sont des vraies clés? Et par ailleurs, terminé finalement, enfin quasiment terminé, c'est pas tout à fait vrai. C'est quand même lui qui a le dernier mot, et quel mot, puisqu'il ça termine par « je vivrai », le poète, donc. Mais néanmoins, il finit par donner la parole à Pythagore.
Alors, on a des hypothèses peut-être un peu différentes. Enfin, moi, j'ai tendance à le prendre un peu au sérieux quand il parle de Pythagore. en fait... Je crois que dans le grand poème de Lucrèce, c'est Épicure qui est le philosophe. C'est au début, c'est pas à la fin chez Lucrèce qu'il amène Épicure en disant presque la même chose qu'Ovid, d'ailleurs, un grand savant qui a instruit tout le monde, etc. Et pour finir par expliquer que ce grand savant expliquait que les dieux, que l'âme, l'éternité, l'immortalité et la transmigration des âmes, c'était pas possible d'y penser, que ce qui comptait c'était la matière, la nature, etc. Et ça, Lucrèce, il commence par ça, et Ovid il finit son poème, après avoir lu Lucrèce, c'est évident, par donner la parole à Pythagore et en disant exactement le contraire. Et aussi en se contredisant, parce que tout ce qu'on a vu dans les 14 premiers chants, dans les 14 premiers livres, il n'est pas tellement question de l'âme jusque-là. Et là, tout d'un coup...
Peut-être expliquer ce que précisément ce que dit Pythagore, en tout cas, dans ce dernier chant.
Mais alors il dit que tout est mobile, alors mais justement, puisque les âmes changent, ça c'est change de corps, etc. Ça c'est cette doctrine. Alors mais en même temps, c'est vrai que Pythagore à l'époque, et déjà à l'époque de Platon, etc., n'est pas Pythagore. C'est-à-dire que bon, il y avait un enseignement de l'école de Pythagore, mais je veux dire ce qui est colporté comme du Pythagore, en fait, c'est la philosophie, c'est plutôt du philosophie générale, mais plutôt platonicienne, mais précisément pas épicurienne. Et alors là, c'est vrai, je pense qu'il y a une espèce d'humour de la part d'Ovide, parce qu'il commence comme Lucrèce ou comme Empédocle, le grand poète de la nature, donc avec les éléments, le chaos, tout ça qui reprend Hésiode, comme si on avait un poème docte sur, vous dire ce qu'est la nature, et à la fin, il finit par Pythagore sur la transmutation des âmes. Mais on n'a jamais ces histoires. Ce sont des corps qui changent corpora nova. Alors évidemment, ce qui passe d'un corps à l'autre, on peut dire c'est quelque chose comme une âme, mais ce n'est jamais dit comme tel. C'est Daphné qui de Daphné devient le laurier, ou Écho qui d'Écho devient Écho, ou Niobé qui devient un caillou, etc.
En même temps, il reste quand même quelque chose après la métamorphose.
Il reste quelque chose, mais c'est comme si...
De la forme d'avant.
Alors, il reste quelque chose, mais c'est comme s'il voulait Ovid dire, oui, finalement, tout ça, vous savez, ça peut paraître merveilleux, la fantaisie, mais il y a un fondement réel. Mais simplement, c'est de même qu'il juxtapose ses fables, je pense que là, il met un morceau de philosophie, mais qui n'explique pas du tout, tout ce qu'il a dit, même si là on a de la vraie philosophie d'une certaine manière, enfin un peu sommaire quand même. Je crois que c'est plus du jeu que de faire une thèse sur le réel, alors que Lucrèce lui il a une thèse sur le réel et donc il reprend d'Épicure et qui développe de manière argumentée, etc. Là on a plutôt un choix comme ça, donc et le poème se transmute d'une certaine manière lui-même.
Donc il n'y en a pas quelque chose d'aussi sérieux que le passage de la voix du poète à celle du philosophe.
Non, le philosophe est une métamorphose.
Et qu'au fond, le poème serait ce déplacement de voix. Oui.
N'empêche que dans un passage, après Pythagore, on a le passage qui m'a le plus étonné en le traduisant. C'est le passage d'Hippolyte qui arrive tout d'un coup, alors qu'on est pour le coup, à la fin, dans le livre 15, on est chez les Latins, chez les Romains, on n'est pas, et là, on revient à Hippolyte, et Hippolyte, il dit, je sais plus à qui il dit, arrête de pleurer, ton histoire finalement, t'es pas plus malheureuse que les autres. Il y en a des gens qui ont vécu des choses bien plus graves que toi. Regarde-moi, par exemple. Mais ça, on sait pas qui c'est Hippolyte. Et il commence à raconter l'histoire d'Hippolyte, qu'il a été, il dit je. Et il dit, celui que tu vois là, mais c'est pas moi, en fait, c'est l'autre, c'est celui d'autrefois, c'est Hippolyte. Il raconte l'histoire, qu'il a été maudit par son père Thésée, qu'il a été, mais il dit pas, il a été, il dit, alors, et au présent? Je suis écartelé, je suis pitié par le char, mes entrailles sont, je suis éviscéré, je suis, etc., etc. Et là, on revient à ce que fait toujours Ovide, c'est-à-dire que le sujet de celui qui parle est aussi l'objet dont il parle, et je, c'est l'autre. Et Pythagore a rien fait là-dedans, enfin, ça n'a rien changé. Il est encore question d'entrailles, de corps et de mort extrêmement réelle, quoi, affreusement limitée là. Donc, malgré le passage par le philosophe. Ça va dans le sens de ce
dans
que tu
dis. Dans le sens de Pierre Jules,
d'accord,
exactement ce que vous allez dire.
Ludovic, je ne sais pas.
I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar, and I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone. But my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation. Oh, everybody knows my name. Yeah. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins.
Le jeu bien sec et précis du bluesman Buddy Guy, Born to Play Guitar, enregistré en 2015. Buddy Guy vieillissant donc, qui comme Ulysse fait voyager son nom et sa réputation. Mais j'imagine que c'est tout autre chose, Pierre-Judé de la Combe, qui vous a amené à dédier votre biographie d'Homère, qui paraît cette semaine dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Vous écrivez, pour commencer, à celles, ceux plus réels qu'Homère qui m'ont aidé à le chercher, et à Buddy Guy, le bluesman, ancien, toujours nouveau. Est-ce que c'est là que se joue la lecture d'Homère pour vous, au fond, rejoignant là, j'imagine, les enjeux de la lecture d'Ovide, c'est-à-dire cette idée de l'ancien, toujours nouveau?
Et oui, ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, c'est parce que on était allé à un concert de Buddy Guy, concert unique, et j'étais saisi, comme que j'avais déjà entendu, Parce que justement, c'est le Buddy Guy, c'est un mythe. C'est le vieux blues de Chicago qu'on entend, mais qui devient nouveau tout le temps et par humour. Donc c'est pas comme s'il il faisait du blues. Dire c'est l'impression que le blues se fait à travers lui ici maintenant. On peut dire c'est un corps nouveau du blues à tout moment, comme dit Ray Ovid, mais alors qu'il est très ancien. Et donc tout ce qu'on dit souvent sur l'opposition entre tradition, nouveauté, etc., genre, forme, et puis individu, artiste individuel, ça s'effondre. C'est-à-dire que il n'y a de tradition du blues comme il y a de tradition épique que parce que des gens font des choses qui résume tout ce qui a été fait avant et le transforme et exprime tout ce qui a été fait avant. Et Buddy Guy, c'est ça. Donc c'est pas simplement que c'est du blues ancienne manière, etc. C'est que le blues se fait au moment même où il est en train de jouer. Et ça, je trouve que si on veut comprendre les poésies dites traditionnelles ou les poésies classiques, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est pas un patrimoine. C'est quelque chose, la tradition au sens vrai, c'est-à-dire ce qui se transmet pour se transformer, n'existe que s'il y a des performances, comme on dit, qui se prennent elles-mêmes comme but. Donc on refait la chose sur place. Et je pense que ça vaut aussi bien pour Homère que pour des gens qui viennent très longtemps après. Il faut dire aussi les Latins, ils ont toute la poésie grecque derrière eux. Après, ils ont les Latins qui eux-mêmes ont essayé de faire du grec. Et donc Ovide, lui, il fait autre chose. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il fait autre chose, non pas simplement en prenant position, même s'il dit « mon animus, moi, je veux faire ça », mais il le fait avec le langage des autres. Et donc on est toujours dans cette richesse d'autant plus grande que c'est pas un langage complètement inventé. Bon, et Buddy Guy, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris comme emblème de mon travail sur Homère.
Vous écrivez d'ailleurs dans la préface à la traduction de Marie Cosnet, hein, « Le nouveau ne se fait plus par décalage, reprise, ou alors d'un passé très proche, actuel en fait. Nous n'écrivons plus avec en tête une autre langue, plus vieille, qui aurait déjà tout dit, comme le grec l'avait fait pour les écrivains latins. »
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a un impératif de nouveauté absolue et cette idée que le nouveau, ça peut être la répétition. Ça peut être avec un déplacement. C'est une chose qui n'est pas tellement à la mode puisqu'on veut vraiment du brand new. On veut que ça soit complètement nouveau, totalement et donc dans un geste autoritaire, bon, qui moi me paraît, bon, peut être génial, mais quand même me paraît assez appauvrissant. Tandis que là, on voit que c'est dans la répétition et Ovid, par exemple, lui, ne cesse pas de se répéter. C'est un peu toujours les mêmes histoires, mais décalées, justement, qui ont déjà été racontées par les Grecs. Donc, parfois par les Romains, c'est par cette répétition, donc ce déplacement, qu'il crée quelque chose d'absolument stupéfiant. Parce qu'il fait tout un poème avec ça. Il fait un poème immensément long, aussi long que l'Odyssée, avec l'idée de la nouveauté. Donc de la rupture, ce qui est quand même un tour de force gigantesque. Mais précisément parce que il reprend, il décale ce qui s'est fait. Et là, je pense que on a une leçon à apprendre. Bon, je crois. Donc pour penser la nouveauté, non pas dans la dépendance de l'instant, qui me paraît dangereuse.
Alors, est-ce que c'est pas précisément Marie Cosnet, je ne veux pas faire de vous un nouvel Ovide, hein, mais est-ce que ça n'est pas précisément ce que vous faites d'une certaine façon aussi? Alors là, c'est juste un petit pas de côté vers votre œuvre littéraire, hein, et au fond, ce mouvement que vient de décrire Pierre Judet de la Combe ressemble un peu, ou en tout cas pourrait faire penser à ce que vous faites. Hein. Il n'y a pas que la traduction qui vous est mise dans la langue d'Ovide, hein, il y a l'écriture aussi, qui est une autre façon encore de relire Ovide. Hein. Puisque traduire, c'est relire, dites-vous, mais écrire aussi, d'une certaine façon. En tout cas, pour Ovide, je pense à des romans précédents, tous hantés, non pas forcément d'ailleurs par les récits des métamorphoses, hein, mais par peut-être davantage par ses principes, par leur impermanence aussi. Je pense à Quéraud, installé dans l'histoire de Bernadette Soubirous, à Cordélia, calé dans le Roi Lear de Shakespeare, à HB, écrit dans la langue de Stendhal. Enfin, là, je vais un petit peu vite, hein, mais en tout cas, ce sont vos amarres. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que Pierre Judet de la Combe vient de dire?
Ah oui, je pourrais jamais. Enfin, c'est la même manière que la traduction, c'est parce qu'il y a quelque chose qui précède et que c'est très très excitant avec ce précédent, de faire ce que je peux faire aujourd'hui. Mais de la même manière pour écrire, j'ai écrit évidemment avec tout ce qui m'accompagne et les quelques-uns qui m'accompagnent le plus. Donc Shakespeare, Stendhal.
J'ai pas cité Manchette.
Voilà, Manchette. Oh, il y en a quelques-uns comme ça.
Maintenant, Covid est traduit. Mais j'imagine que ça veut dire qu'il faudrait le retraduire et encore le retraduire et encore le retraduire, puisqu'il faudrait le relire et le relire et le relire. Qu'est-ce que Ovide peut encore faire pour vous, Marie Cosnier?
Ah, mais il y a ces héroïdes quand même que j'ai très très envie d'aller voir, d'aller relire de près. Donc il n'est pas épuisé, c'est pas fini avec Ovide peut-être.
De quel secours est-ce qu'il vous est, Ovide, ou vous a été, ou vous sera, pour écrire?
Alors, c'est quelque chose qui s'est fait sans vraiment que je m'en rende compte, parce que toutes les questions qu'il pose sur le corps et sa dimension figée ou pas, c'est la tension entre ce qui est figé et ce qui essaie d'échapper à la fixation. La course aussi du récit, le récit qui court vers un autre récit, toujours sans jamais cesser et sans jamais s'essouffler, ou en s'essoufflant toujours, c'est extrêmement proche, mais ça a accompagné l'écriture aussi d'une manière qui s'est faite sans que je l'analyse, moi, au fur et à mesure. Alors maintenant que cette course-là est en tout cas un peu achevée, eh ben on va la réinventer autrement, c'est sûr.
On parlait du temps de traduction, hein, plutôt que de traduction, Marie Cosnet, tout à l'heure. Et je me demandais, justement, 10 ans de traduction, d'autant plus que vous avez commencé par, disons, le centre, dernier tiers. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas commencé par le début. Et je me demandais si en 10 ans... la traduction changeait. Est-ce qu'on progresse dans la traduction en 10 ans? Est-ce qu'on veut retraduire ce qu'on a commencé par traduire?
Alors, j'avais traduit 10, 11, 12 avant, et après j'ai repris au 1, et voilà. Et quand je suis arrivée au 10, je me suis dit, mon Dieu, j'avais très très peur. J'avais pas relu au fur et à mesure, j'avançais dans le texte sans relire, j'ai eu très peur. Et en réalité, les choix principaux, j'y ai pas touché. J'ai beaucoup touché, en revanche, les temps des verbes. Le passé simple, c'était fini, je me servais plus... Non, je pense que je me suis plus servi du passé simple au bout d'un moment. Donc ça, oui, les temps des verbes ont bougé. Quelques détails, des choix d'adjectifs avec les noms, comment on fait avec ça. Mais très peu de choses avaient changé, en fait. Très peu de choses.
Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes tellement ravis d'être là. Tellement fier, car vous nous avez sauvé la vie. On a trop souffert en route, Bon, nous sommes tellement fiers. Après, Dieu, c'est vous actuellement.
Le même monde, non ?
Je ne sais pas quoi dire, mais les mots me manquent, Dieu. Nous sommes tellement contents.
C'est très important, si vous avez des affaires personnelles avec vous, argent, passeport, quoi que ce soit, enlevez-les, gardez-les avant de mettre vos nouveaux habits, parce qu'après le reste ça va à la poubelle, ok? C'est très important quand on arrive là-bas, tout le monde reste assis, ok? On va vous appeler un par un, et dès qu'on vous appelle, vous pouvez monter, d'accord? Allez, merci.
On est à bord de l'Aquarius, bateau humanitaire qui mène des missions de sauvetage en Méditerranée au large des côtes libyennes. Et c'est un extrait de LSD, la série documentaire de Raphaël Kraft, réalisée par Guillaume Baldi, consacrée aux réfugiés et qui a été diffusée toute la semaine dernière sur France Culture. Je vous engage d'ailleurs vivement à podcaster pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. C'est vous qui avez demandé à entendre cette archive, Marie Cosnet. Est-ce que Ovide servirait à écrire, mais aussi à regarder?
Voilà, à regarder, puis il me semblait impossible de parler d'Ovide, de parler de la Méditerranée, de parler du monde méditerranéen, de parler d'aujourd'hui, de parler sans évoquer la question de ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui. Et le reportage de Raphaël Kraft est superbe, et le passage tragique où les gens sont sauvés, entre les sauveurs qui sont d'une dignité, d'une d'une discrétion, d'une... Et ceux qui sont sauvés, qui disent après Dieu, c'est vous. C'est pour nous, pour l'instant, après Dieu, c'est vous. Et s'il n'y a que ça à dire, les mots nous manquent derrière. Ça m'a semblé devoir être entendu.
Pierre-Juliette Lacombe, vous auriez pu choisir cette archive aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de diffuser tout ce que vous aviez demandé, mais il y avait des choses qui, évidemment, faisaient écho à ce que Marie Cosnet est en train de dire.
Ben, c'est vrai, je veux dire qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je suis moins engagé que Marie Cosnet dans ses luttes, quoi, donc qu'elle connaît très très bien, et qu'elle... où elle est plus qu'utile, quoi. Je veux dire, mais on ne peut pas... C'est la grande réalité de maintenant. Je veux dire... On peut avoir des idées sur le monde, etc. Donc se référer à la poésie ou au roman, etc. Mais c'est le grand abîme, quoi. C'est-à-dire où là on ne sait pas. Et nos pays sont d'une férocité invraisemblable, donc de fermeture. Et heureusement qu'il y a ces initiatives-là magnifiques, l'Aquarius, bon. Et toutes choses qui se passent aussi sur le sol, quoi. Je dirais, on peut pas quand on travaille comme ça dans le monde un peu confortable de la traduction, de l'interprétation, on peut pas penser que ces textes, s'ils sont bons, parlent de ça aussi, parlent de cette déréliction de ces abîmes, et donc savent dire quelque chose là-dessus. Et la preuve, c'est que des gens qui s'intéressent vraiment à ça de manière active, intéresse aux situations de violence, etc., retrouve ces textes et en font des utilisations extraordinairement belles, réussies, artistiques et utiles, et souvent beaucoup plus que des tas d'interprétations qui se prétendent raffinées et qui, en fait, débouchent sur pas grand-chose. Donc là, il y a une espèce de force du langage, dans ce langage poétique. Plus il est élaboré, complexe et raffiné, comme ses lettres, celui d'Ovide, mais aussi celui des tragiques, celui d'Homère, etc., où plus on prend en considération cette force du langage, plus on atteint vraiment ces réalités de base qui sont absolument stupéfiantes en ce moment.
C'est ce qui donnerait, au fond, Marie Cosnet à Ovide, de revenir à Ovide, son actualité pour une écriture d'aujourd'hui, comme le dirait Pierre-Judé de Lacombe, c'est-à-dire une lecture politique possible, oui. Et qui ne serait pas une lecture politique, alors comme on l'a déjà pu le faire pour Ovide, c'est-à-dire éventuellement des références plus ou moins cryptées, son rapport au pouvoir, compliqué, pas compliqué, ça n'est pas cette question-là. Mais qui est plus justement la question de l'impermanence des identités. Vous dites vous-même, dès qu'une identité est totalisée par un article singulier, je crois que c'est faux. Ça, c'est vous qui le dites, Marie Cosnet. C'est ça la leçon ou le point de rencontre politique pour vous avec Ovide ?
Oui. Enfin, je ne l'ai jamais lu comme un auteur dans le temps, enfin, comme un vieil auteur là, qu'il fallait ressusciter, etc. Évidemment, la question qui s'est posé au fur et à mesure, au fil de la traduction, c'est cette question de toujours échapper. Est-ce qu'on peut échapper à ce qu'on est ou ce qu'on semble être, qu'on n'est jamais en réalité ? Et donc, c'est évidemment la question des identités multiples qu'on a tous.
Oui, je veux dire qu'il y a une fascination maintenant pour l'identité. C'est ça qui est extraordinaire. On vit à la fois l'exigence de nouveauté, du brand new, ce qui est vraiment nouveau, la rupture, etc. Et en même temps, une revendication féroce, dure, avec tous ces nouveaux racismes qui viennent, ces fondamentalismes, de l'identité, d'être bien chez soi, quelque part. Et Ovide, alors, c'est non seulement il refuse ça, parce que tout est mouvement, mais là où c'est génial, je veux dire, ça serait une thèse.
Pas tout est mouvement.
Oui, justement, voilà. Il y a aussi le contraire. Que parce que comme les choses changent, elles changent d'état en état. Et donc, c'est d'une précision inouïe. C'est ça qui est magnifique chez lui. C'est qu'il retrouve cette fameuse précision épique homérique où chaque détail compte, etc. Pour dire ce qui est mouvement, ce qui est changement. Et d'où cette force inouïe de ce poème. C'est-à-dire que les changements, ce sont comme des phases qui se succèdent et il y a une espèce de solidité à chaque fois dans ce mouvement qui est tout à fait surprenante. Donc on est vraiment dans l'exigence absolue de précision et c'est ça qui manque. C'est pas une littérature sentimentale qui dirait voilà mon opinion sur le monde, mon sentiment, ça on s'en fiche complètement. Et ça, l'épopée de toute manière n'en veut pas de ça. Il s'agit de décrire l'état des choses. Et l'état des choses, là il est dit, donc là il est plus instable avec le langage de la stabilité. langage de l'image, l'imago, justement. Et c'est ça qui est magnifique, parce que on manque de ça beaucoup, de cette espèce de précision qui désigne les choses, qui désigne les situations exactement comme elles sont, pour ensuite voir qu'elles changent et que on n'est jamais soi-même, quoi. Mais précisément, on a le droit à avoir un langage qui dise ce qu'on est à tel et tel moment, précisément.
Marie Cosnet, Pierre-Judy Delacombe, merci à tous les deux. C'est presque la fin de cette émission, puisque je vous laisse la poursuivre entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à toutes et à tous.
Merci.
Oui, donc là, il faut... In absentia.
Mais quand tu dis... t'as dit quelque chose... T'as dit... aujourd'hui, on veut être bien chez soi, tout ça. Bah, ça, c'est bien d'être bien chez soi, quand même. Enfin, alors... tu vois, enfin, c'est... quand tu dis les identités... sur les racismes et les fondamentalismes, mais il y a les identités, celles qui font que au moins on est bien chez soi et qu'on peut donc se déplacer de chez soi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, on se le garde, ça quand même, être bien chez soi.
Non, mais alors là, on est un peu loin d'Ovid, mais
mais quand même.
C'est toute la question de savoir si le chez soi est une idée. On construit ça comme une totalité, je dirais là, on est tout de suite dans l'erreur, parce que on pourrait très bien être ailleurs, et puis il y a un vent mauvais qui peut venir, qui fait qu'on devra être ailleurs.
Mais c'est parce qu'on est un peu bien chez soi qu'on sait qu'on pourrait être ailleurs. Alors,
bon, tout peut arriver, je pense que, et ce qu'il faut, c'est ce que fait cette poésie, c'est ce que faisait, je pense, enfin, déjà Homère, enfin, toutes les grandes poésies, c'est le déplacement, pour reprendre même aussi le titre d'un de tes livres, c'est-à-dire qu'il s'agit de capter l'instabilité.
Je me demande par rapport à Médée si elle est déplacée, pas tant que ça. Enfin, elle est déplacée parce que c'est une exilée. En fait, si. Mais son déplacement, il est antérieur, il est avant, puisqu'elle est arrivée, chez les.
Alors,
chez
elle est arrivée, donc
et c'est barbares, vrai que. Elle est arrivée chez les Grecs, et là, en tout cas, quand Ovide la présente, elle subit pas de métamorphose, jamais. Sa seule métamorphose, c'est de, en effet, réussir à s'échapper. C'est la seule qui arrive à s'échapper.
Et Médée, c'est celle qui vit dans un monde plein, un monde de richesses, et arrive le Jason, et d'un seul coup, il y a la différence qui s'introduit en elle, c'est-à-dire elle devient amoureuse, donc, et là, elle quitte tout.
C'est ça, on la voit dans Ovide.
Bon, donc, elle dissèque son frère, etc. Mais elle survit à tout. Donc,
voilà,
parce qu'après,
ses
crimes vont
tout.
Se succéder. Et donc, c'est vrai, sans se métamorphoser. Donc, Médée, c'est celle qui peut, qui est l'exception.
Et elle est exactement au milieu du poème.
Donc, c'est celle qui montre ce que c'est que la métamorphose. Effectivement, c'est cette espèce de fuite permanente. Même
ce que ça pourrait être si ça allait au bout, en fait. S'il n'y avait pas de limite.
Alors, c'est ça. Et en même temps, c'est l'identité absolue, parce qu'elle s'appelle toujours Médée.
Donc oui, c'est
toujours elle-même. Et Médée, c'est quoi? C'est cette somme de déplacements, contradictions. Donc là, il y a une force. Et
c'est
la poésie qui
c'est
permet
quand même
ça.
Incroyable. Que ce soit l'identité absolue, alors que c'est celle qui s'échappe tout le temps.
Mais, parce que l'identité, là, je pense qu'Ovid, l'identité, c'est la fuite. On est par ce qu'on fuit.
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Victoria Asper pour la technique et à Thomas Beau pour la réalisation. Merci à Marie Cosnet et Pierre-Judy Delacombe. Je voulais signaler encore la lecture ou relecture des Métamorphoses par des comédiens et metteurs en scène jusqu'au 5 novembre sur la péniche La Pop à Paris. Et c'est chaque dimanche à 15h30. Vous trouverez le détail de la programmation ainsi que toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.